un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Il y a d'abord eu le chiffre donné par la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, en mars 2021. Elle faisait état d'au moins 10 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique française depuis 1950. Et puis la commission s'est aperçue que c'était finalement 20 fois plus, au moins, dans un rapport rendu en octobre de la même année. En tout, 216 000 personnes, en grande majorité des garçons, ont été en France victimes d'un membre du clergé, c'est-à-dire de prêtres, de religieux ou de religieuses. Et le chiffre monte à 330 000 si on ajoute les victimes des laïcs qui participent à la vie catholique, les profs de catéchisme, les bénévoles, les diacres, ceux qui appartiennent au mouvement de jeunesse. Dans les milieux catholiques, on utilise le terme euphémisé de « crise des abus » pour désigner ce qu'il faut bien considérer comme un cataclysme. Alors on s'est demandé aujourd'hui comment on vit ça quand on est dedans, quand on a la foi et la foi dans l'Église. C'est parti d'une conversation à laquelle j'ai assisté dans un train normand où trois étudiantes, tout juste sorties de la chic et catho prépa Ginette, parlaient de leur crise de foi et du prix des JMJ. On écoute donc deux témoignages sur ce sujet, ce moment difficile, et c'est un euphémisme que traversent les croyants. Un reportage de Timothée de Roglaudre.
Je m'appelle Marion, je suis au chômage depuis quelques mois, mais voilà, j'ai travaillé dans l'associatif pendant plusieurs années. Et là, je suis en reconversion professionnelle pour devenir psy. Je suis née dans une famille catholique très pratiquante. On allait à la messe tous les dimanches. Mon père est devenu diacre aussi quand je suis arrivée au collège. Donc, c'est pas un prêtre, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir célébrer une messe seule, qui va plutôt célébrer les mariages, les baptêmes, les funérailles même. Ma mère, elle était responsable d'aumônerie. En fait, mes parents étant très engagés, il y avait souvent à la maison des prêtres qui venaient manger le dimanche. Il y avait des jeunes catholiques qui venaient, qui se rassemblaient à la maison. Et voilà, je me souviens aussi de la prière tous les soirs, dans un milieu où vraiment la foi, c'était très important, même dans nos discussions à la maison. Donc j'ai été baptisée jusqu'à la confirmation. J'ai pas vraiment eu le choix de faire ma confirmation, c'était vraiment, il fallait le faire, quoi. Donc beaucoup de camps d'été aussi pendant mon adolescence, camps d'été avec des jeunes de la paroisse. Puis j'étais aussi dans des écoles privées, donc à l'école aussi, il y avait cette dimension religieuse. J'ai quand même été vraiment éduquée dans cette idée que Dieu est amour, que voilà, Dieu veut notre bien. Et moi, à l'époque, c'était assez positif pour moi. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de tabous, Enfin, je me souviens quand même d'un contexte assez oppressant, en fait. Sur la manière de se tenir avec des normes assez strictes, une manière d'être, il y a vraiment l'idée du bien et du mal. Voilà, nous, il fallait qu'on soit dans le bien. Et être catholique, c'était essayer d'être dans le bien. Et le mal, c'était beaucoup de choses. Moi, je croyais en Dieu. C'était important pour moi, ça prenait du temps dans ma vie, mais j'avais pas encore vraiment fait mienne cette fois-là. Et puis, quand je suis partie de chez mes parents pour aller faire mes études, j'ai arrêté d'aller à la messe. Déjà parce que ça m'a fait du bien de pas être obligée d'y aller tous les dimanches, qu'il y avait cette dimension d'émancipation, je pense, où j'avais besoin de cette pause, en fait. Mais sans colère, voilà, je me suis détachée de l'église et je priais pas forcément non plus pendant quelques années comme ça. Alors je sais plus quel âge j'avais, 25 ans peut-être, je devais avoir 25 ans. J'ai traversé une période très douloureuse de dépression et j'avais un peu plus rien à perdre. Et un soir je me suis pointée à l'aumônerie des jeunes de la ville quoi, où j'étais. Et j'ai rencontré des gens incroyables. Je me souviendrai toujours de cette soirée. Il y avait 80 jeunes qui mangeaient là sur les tables. Il y avait une ambiance formidable. Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis allée à l'aumônerie tous les jeudis soirs. Il y avait une soirée avec ces personnes-là, du coup j'y allais. Et je considère que je me suis convertie à ce moment-là parce que c'est là où vraiment j'ai commencé à faire le choix d'aller à la messe, de pratiquer, à prier beaucoup. Et voilà, ça a été une expérience très importante, un passage assez important dans ma foi et qui a fait qu'ensuite j'ai continué pendant plusieurs années à pratiquer, à aller à la messe, à croire en Dieu. Je me suis engagée dans des associations assez jeunes, enfin j'avais 18 ans, donc pendant des années j'ai fait des maraudes auprès des personnes de la rue. J'aimais énormément ces rencontres-là et pour moi c'était vraiment des actes d'amour en fait qui étaient totalement liés à ma foi. Il y avait quelque chose où je vivais, j'ai l'impression de vivre en acte un peu ce que Jésus nous invitait à faire et du coup voilà, je me sentais très en cohérence. Et en fait, j'ai même fait mon master dans une école de management de projet dans l'humanitaire. Donc, c'est des études qui mènent directement au travail dans l'associatif. Et pendant ces années-là, j'ai fait plusieurs stages dans des pays africains. Et je me suis politisée, je pense, assez fortement au moment d'une année de césure où je travaillais dans une association d'éducation populaire. Et là, ça m'a permis de déconstruire un certain nombre de sujets, de me sensibiliser à l'écologie, de déconstruire aussi toutes les questions autour du colonialisme, enfin de la colonisation. J'avais jamais vu avant les associations humanitaires comme potentiellement des organisations qui participent à une certaine nouvelle forme de colonisation. Pour moi, aller en Afrique aider des gens, c'était super. Je voyais pas du tout le mal qu'il y avait là-dedans. Et je pense que c'est ça aussi que l'éducation populaire m'a appris, c'est l'idée de ne pas penser pour les autres. Et puis, ma politisation, elle s'est encore plus accentuée l'année suivante quand je travaillais dans une association catholique et où, bah, par exemple, parfois, sur des heures de travail, on allait dans des manifestations et j'ai découvert qu'il y avait des cathos de gauche et ça m'a fait un bien fou. Il y avait quelque chose de très, très enthousiasmant à ce moment-là. Et où je commençais à me politiser, à remettre en question un certain nombre de croyances que j'avais. Avant 2019, j'avais pas connaissance en fait de la crise des abus. J'étais assez loin de ça. Je sais pas pourquoi. J'étais pas vraiment au courant. Mais c'est vraiment en 2019 où j'ai des collègues donc dans cette association catholique qui ont commencé à me faire part du fait qu'ils étaient vraiment ébranlés par toutes ces nouvelles qui arrivaient de violences sexuelles dans l'église. Et moi, à l'époque, j'étais bercée par une petite mélodie qui disait « De toute façon, on connaît les chiffres, les pédocriminels, c'est avant tout dans les familles, donc dans l'église, c'est une minorité. » Moi, j'avais vraiment ce truc de dire aux gens « Il y a l'église d'un côté, il y a la religion, et puis il y a la foi. » Du coup, j'acceptais qu'il se passait des choses terribles dans l'église, mais ma foi ne bougeait pas pour autant. Mais je me souviens d'avoir été au cinéma voir le film « Grâce à Dieu » de François Ozon. C'est l'histoire du père Prénat, qui a un prêtre qui a violé des enfants. Et je pense que c'était vraiment le début d'une prise de conscience, en fait. Tout d'un coup, je réalisais que l'Église n'était pas si parfaite, et on ne peut plus nier, en fait. En parallèle de ça, il y a mon féminisme qui grandit. Et après quelques tâtonnements dans des paroisses où je ne me sentais pas forcément à ma place, je trouve une paroisse super, très ouverte, avec de la musique rock. Enfin, c'était assez impressionnant, où ils ont même agrandi l'église tellement il y avait du monde dans cette église, beaucoup, beaucoup de jeunes. Et malgré tout, un jour, je vais dans cette paroisse-là où je me sentais bien. Je vois le prêtre sur l'autel et nous en bas. Et j'ai vraiment cette image où j'ai l'impression de vraiment voir la structure de pouvoir en face de moi, de voir une domination s'exercer comme ça, et c'est insoutenable. Et finalement, de déconstruire tout ça, ça me fait aussi progressivement déconstruire mes croyances. Je me dis, mais en quoi je crois? Pourquoi je crois ce que je crois? Et en fait, c'est assez récemment où c'est une amie qui voulait m'interroger pour un podcast sur des catholiques féministes. Et j'ai eu une prise de conscience et je lui ai dit, en fait, je me sens pas du tout légitime. Plus que ça, je crois plus en Dieu, en fait. Je crois même plus qu'il y a un Dieu. Ça m'a quittée. J'ai fait mon coming out de sortie de la foi à mes parents. Donc, je leur ai annoncé, c'était finalement quelque chose d'assez important pour moi de leur dire. Pas forcément évident. Parce que moi, je me souviens très bien quand j'étais croyante. Forcément, les gens qui croient pas en Dieu, c'est des gens qui passent à côté de quelque chose. En fait, quand je dis je suis plus catholique, on parle à la négative, on a perdu quelque chose. Et je trouve ça assez agaçant. J'aimerais trouver un mot pour le dire autrement. Parce que moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu quelque chose, en fait. J'ai l'impression que mon chemin, il continue. Moi, j'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie. J'ai l'impression de m'être libérée d'énormément d'injonctions, de normes que je trouvais extrêmement pesantes. Je me sens dans la joie, en fait. Et je pense que pour des personnes qui croient, c'est difficile à accepter que quelqu'un qui sort de l'église puisse être... heureux, voire plus heureux, sans Dieu, sans Jésus, sans tout ça. Et j'ai peur qu'on ne croit pas dans le fait que je vais bien, ou aussi qu'on remette en question ma foi avant, en fait. Qu'on me dise, mais du coup, si tu ne crois plus en Dieu, peut-être qu'avant, tu ne croyais pas vraiment. Enfin, ça avait quelle valeur, du coup, pour toi avant. Alors que, voilà, je pense qu'il y a mille manières d'avoir la foi. Et voilà.
Je m'appelle Marie, j'ai 33 ans, j'habite à Bordeaux, en Gironde, et je travaille comme cuisinière dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Je suis née dans une famille de 4 enfants, nous sommes 2 garçons et 2 filles, moi je suis la petite dernière. Nous venons d'une famille très catholique et pratiquante et très investie dans l'église. Investie également dans un centre d'accueil pour des réfugiés. Et ce qui fait qu'à la maison, on voyait passer toutes sortes de gens de tous les milieux. Alors, autant on voyait passer des évêques, des prêtres, des religieux, autant on voyait aussi parfois des gens vraiment à la marge. Donc, c'était mouvementé comme ça. Et c'est vrai que moi, j'étais très fière de ma famille pour cette ouverture et cette disponibilité à tous. Notre famille pratiquait énormément. Nous allions évidemment tous les dimanches à la messe. Par exemple, lors de la Semaine Sainte, évidemment, nous faisions tous les jours jusqu'à Pâques. Voilà, chacun de nous, nous nous confessions vraiment très régulièrement. On était très proches de beaucoup de prêtres aussi. Donc, la spiritualité était omniprésente dans notre vie quand même. Et nous faisions beaucoup de retraites spirituelles, au moins une fois, voire deux fois par an. On partait une semaine en silence dans une abbaye. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment notre tradition familiale. L'église, pour nous, en fait, c'était notre famille. On ne pouvait pas imaginer notre famille sans la vie de l'église. Et même les prêtres, moi, parfois, j'avais l'impression que c'était des gens de ma famille. Et je jouais avec eux, j'étais vraiment en famille avec eux. Donc du coup, l'église faisait partie de notre vie de famille, en fait. Une fois arrivée à l'âge adulte, j'ai continué à faire des retraites spirituelles, peut-être même que ça s'est intensifié. J'envisageais de devenir religieuse. C'était pas du tout clair au fond de moi. Moi, j'étais en recherche de ma vocation. Et finalement, j'ai trouvé un peu un entre-deux en devenant secrétaire dans une paroisse. Et en fait, on voyait passer toutes sortes de gens. Moi, depuis mon secrétariat, je voyais passer des évêques, des prêtres, et puis aussi des gens en très grande précarité, des immigrés. Donc, j'avais le sentiment d'être à ma place. Ça a duré quand même 6 ans, cette expérience. Quand j'entends parler de la crise des abus, étonnamment, que ce soit moi ou ma famille, on est très mal. On ne sait pas pourquoi, mais on se sent très mal par rapport à ces affaires, peut-être même plus que la moyenne, parce que c'est une hécatombe pour nous. Il y avait quelque chose qui nous atteignait dans nos tripes, en fait. Mais on ne se l'expliquait pas. Et moi, c'est vrai que c'est à partir de là, quand même, que j'ai commencé à prendre peut-être un peu de distance avec l'Église, parce que ma confiance était touchée. Moi, j'ai commencé à entendre parler des abus dans l'Église avec l'affaire Barbarin, qui a éclaté en 2016, à peu près. C'est vraiment là qu'on a commencé à en parler dans tous les médias. Monseigneur Barbarin était archevêque de Lyon et il avait été accusé d'avoir protégé un prêtre, le père Prénat, de sévices sexuels qu'il aurait faites auprès de jeunes enfants. À partir de là, dans notre famille, on s'est mis à relire notre histoire. On la relisait déjà depuis quelques années parce que mon frère marié et ma sœur et moi, on était suivis par des psys, on faisait une thérapie chacun. Et déjà, on était interpellés parce que nos trois psys respectifs nous avaient dit que nous avions des symptômes d'abus sexuels, tous les trois. Donc on tombait un peu des nues parce qu'on se disait dans notre famille si parfaite qu'il ne peut pas y avoir eu de tels actes chez nous. Et un jour, en 2017, mon père a voulu déménager. Il a quitté Mont-de-Marsan pour aller s'installer au bord de l'océan, de telle sorte que maman puisse respirer un bon air. Et lors de ce déménagement, mon frère est tombé sur les photos de mariage des parents, et notamment sur une photo où ma mère est habillée en robe de mariée, assise devant un miroir, et derrière elle, un prêtre qui l'a mariée ce jour-là avec papa se situait debout derrière la chaise et avec les jambes écartées et le pied droit posé sur la chaise à droite de maman. Donc vraiment dans une position dominatrice. Il l'a surplombée et on avait le sentiment en regardant cette photo qu'il possédait maman, quoi. On savait hein, que ce prêtre avait été très proche de maman. Pour elle, il faisait figure de père, un petit peu. Déjà, maman, avant de se marier, avait dit à papa « Ce sera difficile pour moi de vivre avec toi si tu n'acceptes pas cette relation d'amitié avec ce prêtre. » C'était vraiment une condition importante pour elle. Une fois qu'ils ont été mariés, ce prêtre est devenu à la fois leur confesseur, leur conseiller conjugal, leur conseiller spirituel. Maman l'appelait tous les soirs, elle lui racontait tous les détails de sa vie. Ensuite, mes frères et sœurs sont nés, et ça a continué ainsi. Déjà, il est devenu le parrain de ma sœur aînée. Et ensuite, il venait déjeuner tous les dimanches midi à la maison, même les soirs de semaine. Et on s'est rappelé que mon frère et ma sœur allaient déjeuner tous les midis chez lui, après l'école, alors que maman était mère au foyer, qu'elle aurait pu les recevoir à la maison. Ils allaient chez ce prêtre déjeuner tous les midis. Et mon frère s'est souvenu qu'il était un jour assis au bureau de ce prêtre et que ce dernier lui a dit « Tu restes assis au bureau et pendant ce temps, je vais dans la chambre avec ta sœur. » Ce prêtre, c'est l'abbé Raoul Dauba, qui était un prêtre, qui était une grande figure dans l'Église catholique des Landes. Il était vraiment beaucoup apprécié, il faisait des sermons, paraît-il, assez incroyables. Et moi, je ne l'ai pas connu parce que je suis née 2 ans après sa mort. Tous les souvenirs commençaient à rejaillir. Moi, je discutais de mon côté avec papa. Souvent, j'allais le voir le week-end et puis je lui posais plein de questions. C'était des thérapies en accéléré. Et là, un jour, il me dit « Ah là là, je me rappelle maintenant, ta mère s'était demandé si l'abbé n'avait pas abusé de ta sœur. » Alors là, j'en parle à ma sœur et elle se met dans le déni complet. Elle dit « Non, non, c'est pas possible, c'était mon parrain, c'était un homme incroyable, tout le monde l'adorait, c'est pas possible. » Et parallèlement à ça, ma sœur était en hôpital de jour depuis quelques années parce qu'elle avait une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. C'est une maladie assez douloureuse qui donne des douleurs en fait à tous les membres du corps. Par rapport à cette maladie, on lui avait proposé de faire de l'hypnose. Et au bout de quelques séances, un jour, elle a un flash, puis un deuxième flash, un troisième. Et là, petit à petit, elle réalise qu'effectivement, ce prêtre avait abusé sexuellement d'elle. Les souvenirs qui reviennent à ma sœur au travers de l'hypnose, Je ne sais pas si on peut rire de ça, mais c'est vrai que ça a été un moment assez drôle parce que j'étais au téléphone avec elle. On parlait de tout et de rien. Et au bout d'un moment, elle stoppe la conversation. Elle me dit « Attends ». Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Je vois un slip ». Alors, je lui dis « Oui, d'accord, tu peux approfondir ». Et elle me dit « Oh, c'est le slip de l'abbé ». Et c'est le premier flash qu'elle a eu, en fait. On l'a eu en direct au téléphone. Voilà. C'est surtout après, elle a eu d'autres flashs. Et là, pour le coup, elle a pas voulu me les raconter. C'était vraiment trop difficile pour elle. En fait, elle avait eu une amnésie traumatique. Elle n'avait plus aucun souvenir de son enfance. Moi, c'est vrai que quand je lui parlais que je voulais partager des souvenirs avec elle, c'était toujours le blackout. Et quand ces abus se sont produits, ma sœur avait environ 10 ans. Elle était encore à l'école primaire. Et apparemment, ça aurait duré 1 ou 2 ans. Moi, ce que je ressens surtout, c'est de la colère. Quand on fait toutes ces découvertes sur les abus, je suis encore secrétaire à la paroisse. Et là, c'est vrai que ça commence à dégringoler pour moi. Je commence petit à petit à aller beaucoup moins à la messe. Je navigue un peu entre différentes paroisses, parce que de toute façon, je supporte plus aucun prêtre. Donc je me dis, tiens, je vais essayer une autre paroisse. Et puis, bah non, toujours pas. Donc petit à petit, ça s'étiole. Et le jour où je réalise que quand j'accueille les gens à la paroisse, au fond de moi, j'ai envie de leur dire « barrez-vous » parce que vraiment, ici, ça sent pas bon. Là, je me dis « il faut partir » parce que je peux plus assurer ce service correctement. C'était plus cohérent pour moi. Par rapport à ma foi aujourd'hui, alors autant j'ai de la colère contre l'Église, contre l'institution, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand les prêtres nous font des sermons sur la pureté de l'amour, le respect de l'autre, et qu'on voit qu'ils protègent d'autres prêtres qui font des sévices sexuels, et qui protègent même des communautés aussi religieuses, où il y a des dérives sectaires, ou des abus de pouvoir aussi. Ça, moi, ça me met vraiment en rage. Mais aussi, ce qui m'horripile le plus, c'est la sacralisation, le sacré. Parce que le prêtre est tellement adulé et il se prend lui-même tellement pour un dieu qu'il devienne intouchable et donc insoupçonnable. Et à partir de là, tout est possible. Et moi, en travaillant en paroisse, j'ai vu ce comportement des gens qui adulaient complètement les prêtres, qui étaient à leurs pieds et qui se laissaient traiter presque comme des chiens. J'ai vu un jour un prêtre qui, à la sortie d'une messe, a tendu son aube à une sacristine sans même la regarder et qui lui a dit « vous me la lavez pour dimanche prochain ». Une sacristine, c'est une dame qui s'engage à entretenir l'église. Et genre, le mec, il a pas de machine à laver, quoi. Mais vraiment, moi, ça me mettait dans des états. On était leurs serviteurs. Et moi, je sais que pendant des années en paroisse, j'ai essayé de lutter contre ça de l'intérieur. Mais en fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit que j'étais en train de perdre mon énergie contre un système qui était bien plus fort que moi. Donc c'est pour ça que je m'en suis éloignée. J'ai arrêté d'aller à la messe de manière très progressive. Je me sens un peu en errance, quand même, dans ma foi. On dit souvent qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Du coup, j'essaye quand même de garder un lien avec Dieu du mieux que je peux. En fait, je lui parle. Ça, c'est vrai, je lui parle. Et puis, surtout, ce que je lis, ce sont les psaumes ou le livre de Job. Job, c'est un homme dans la Bible qui avait une vie assez exemplaire, qui avait toujours été fidèle avec Dieu. C'était un homme honnête. Et un jour, Satan dit à Dieu, « Écoute, on va bien voir si ton serviteur est si fidèle que ça. Je vais lui envoyer plein de malheurs et on verra bien s'il reste attaché à toi. » Et Dieu lui dit, « Bah, vas-y, vas-y, mais pour autant, ne porte pas atteinte à sa vie. » Et là, à partir de là, il va y avoir plein de malheurs sur cet homme, mais vraiment dramatique. Il va perdre tous les membres de sa famille, il va se retrouver très seul, malade aussi. Et donc Job, il passe son temps, en fait, à pleurer et à dire à Dieu, mais pourquoi ? Et à râler aussi, en fait. C'est humain, en fait. Ce sont des cris humains. Il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la tristesse, de la souffrance, mais c'est purement humain. Et moi, ça me parle beaucoup parce que ce sont des paroles on crie contre Dieu, on s'énerve et c'est vraiment terre à terre. Et c'est ça qui me rassure dans ces textes-là. Donc je lis surtout ces textes. Je ne peux pas dire que j'en veux à Dieu, je ne reproche rien à Dieu, mais j'en veux à l'abbé d'Aubin, en fait, c'est lui qui m'a séparé de Dieu, en fait. Et c'est en ce sens que j'ai été obligée, en fait, de prendre de la distance avec Dieu. Et le fait de ne plus aller à la messe, ça reste douloureux, parce que jusque-là, ça avait été toute ma vie. Donc c'est vrai que les dimanches, il n'y a plus de messe. Là, je sais que Noël et Pâques, cette année, par exemple, j'avais même oublié Pâques, par exemple. Ce sont mes amis cathos qui me l'ont rappelé. Quand je me suis rendu compte que j'oubliais finalement de vivre ces moments de la vie du Christ qui étaient si importants et qui sont toujours aussi importants pour moi, ça m'a meurtri. Avec le temps, je me dis que peut-être que j'essaierai de remettre un pied dans l'Église au travers des communautés religieuses. Alors des communautés dans lesquelles j'ai confiance, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup auxquelles je fais confiance, mais peut-être faire une retraite à nouveau de quelques jours en silence. Pour l'instant, j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai pas envie d'entendre les discours catho, mais reprendre avec les prières du matin, les prières du soir dans une communauté, ça, des fois, je ressens l'envie de le vivre. Et peut-être que j'y arriverai, et je pense que ça passera par là.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours.
C'était La crise de foi sans eux. Un reportage de Timothée de Roglaudre réalisé par Somaya Dabèche. Merci bien sûr à Marie, à Marion ainsi qu'à Églantine du café associatif Le Simone à Lyon. Céline Paris, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Rita Ruggirello, c'est notre merveilleuse stagiaire.
S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.